Allez dans Salle à manger et Wine Bar jusqu'au 12 février. Détails au restaurantnormandin.com.
La nouvelle programmation de Boulevard va faire jaser cet hiver.
Boulevard 102.1.
Rage Against le matin.
De 88 ans, s'est présenté samedi soir aux urgences
en raison
d'un obus datant de la Première Guerre mondiale coincé dans son péteux.
Ça l'a pas de ça.
Aïe, aïe. Marceau le midi.
Tu écris une fois, si elle voit, pas très bon pas. Suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te suis.
Ouais, sont de même, hein?
Sont toutes de même!
Moi, j'haïs ça.
Gravel dans le retour.
Yuffie, j'adore ça, par exemple. Ben, ça risque
ouais, mais tu avises personne. Les jokes de Frog non plus. Hein?
Attends,
les têtes carrées, c'est personne.
Aussi, Mathieu Marcotte, Dan Deman et Thomas Gauthier. Boulevard 102.1, c'est plus que du rock. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Bon jeudi, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 à Québec. Ce soir, quel plaisir que j'ai de retrouver mon ami Eric Flynn, le musicologue, l'historien musical, le gars de RadioNostalgie.ca, le gars de RadioQuébec.biz. Éric Flynn, comment ça va?
Hey, ça va super bien, toi?
Oui, est-ce que tu as passé des belles fêtes? As-tu pris ça relax ou...
Oui, ça a été relax cette année. À un moment donné, j'étais allé dans Portneuf, mais ça a été mon gros voyage du temps des fêtes. Mais à part de ça, non, ça a été assez relax cette année.
OK.
Il était sage.
T'as-tu acheté des cadeaux à tes chats?
Ben oui, j'en ai acheté certains, et puis des petits jouets, puis... ils ont été gâtés aussi, ils ont eu même une crèche que j'ai bâtie,
ouais.
Parce que, pour faire une histoire vite, c'est que, où est-ce que j'entrepose mes affaires, je me suis fait voler mon arbre de Noël.
OK.
Et puis...
Tu t'es fait voler ton arbre de Noël.
Les boules, puis la crèche, j'avais une belle crèche que j'aimais en plus.
Ils se sont gâtés.
Et puis, c'est ça. Fait que là, j'achète l'arbre, et puis... Là, j'ai acheté des boules et ainsi de suite. Mais là, j'ai oublié d'acheter la crèche.
Ouais.
Là, j'ai dit, on va prendre une vieille boîte à chaussures. Uh-huh. Fait que là, j'ai dit, je vais mettre les trois photos de mes chats. Le petit, il va faire Jésus. Les deux autres vont faire Joseph-Marie. Puis, je vais mettre ça là. Au bout de deux jours, ça a été pulvérisé par les chats.
Ah, ouais.
Mais ça a été eux autres. Là, c'était le petit cadeau en même temps que je vous avais fait.
Oh, c'est ça. C'est qui autre? Moi aussi, j'ai acheté des petits cadeaux à mes chats. Je leur ai acheté une genre de souris là, à batterie là, qui court un peu partout dans la maison.
Ah,
là.
Ouais.
Mais j'avais oublié le chien.
Ah,
fait qu'est-ce que tu penses que le chien a fait? Dès qu'il a mis la main sur la souris, t'as le mâchouillé, puis j'ai été capable d'y enlever la batterie parce qu'il grognait un peu. Là, tu comprends mm-hmm. qu'il fait un peu de la protection. Là. Les deux méchants chats volent ses jouets une fois de temps en temps. Il a peur de se faire voler ses os aussi par les chats. Fait qu'il a décidé de manger la souris que j'avais offert à mes chats, puis j'ai eu juste eu le temps de retirer la batterie.
Ah,
je sais pas qu'est-ce que c'est. Ben, c'est sûr, ça doit pas être super bon pour la santé d'un chien, là, s'il mange une batterie Duracell.
Non, ça doit être la même chose pour nous autres. J'ai jamais essayé, là. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a de la terre à l'intérieur, là. Parce que
tu l'as jamais essayé, ça me rassure.
Non. Ouais, c'est ça. Pourtant, tout le monde m'appelait le Mongol à batterie quand j'étais jeune. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a de la terre. J'avais déjà expérimenté quand j'étais jeune.
Ouais.
Je voulais voir qu'est-ce qu'il y a dedans.
Ah, c'est cool. Je pense qu'on les a tous ouverts, les batteries, quand on était jeune.
Ah, ouais, on voulait voir qu'est-ce qu'il y avait dedans. Puis, OK, c'est de la taille.
Mais aujourd'hui, un enfant qui fait ça, on l'envoie à l'urgence. Là, et...
Ah ouais, on prend pas de chance.
Il est sûrement arrivé quelque chose.
Ben ouais, puis une enquête sur les parents.
Oui.
Comment est-ce que les parents ont laissé faire ça?
Exact. Ils ont laissé une batterie dans les mains de leurs enfants. Éric Flynn, t'es musicologue, t'es historien musical. Et ce soir, on parle de la place du diable dans la musique.
Oui, le diable dans la musique. Et ça date vraiment pas là, à partir d'Ozzy Osbourne, là, tu sais. Faut vraiment reculer, même au Moyen-Âge. La musique profane qu'il y avait au Moyen-Âge, qui était de la musique autre que catholique.
Ouais.
Là, quelqu'un qui avait quelque chose de différent, ben, tu sais, c'était tout de suite au bûcher, tu sais, immédiatement, tu sais. Donc, c'était déjà au Moyen-Âge, même aussi dans les années 1830, Hector Berlioz, qui est un compositeur français, ben lui, il se déguisait en diable, c'était tout simplement, puis on le prenait pour un diable aussi.
Il se déguisait en diable.
Ouais, Berlioz, ouais, effectivement. Et c'est ça, puis lui, ben, dans sa musique, il y avait la flûte à bec, il y avait des cordes, et de l'orgue. Donc, on faisait référence que sa musique, elle était démoniaque là, ouais. à cause de tout ça. Pourtant, la flûte à bec, quand on était jeune, on a tous joué ça, tu sais. Plus tard, Baudelaire.
C'est drôle que tu me dises ça, parce que moi, quand un enfant joue de la flûte à bec à côté de moi, là, on dirait des idées noires qui apparaissent dans ma tête. Hein?
Ben oui, imagine que tu étais une chorale en troisième année, là, tu sais.
La flûte à bec, c'est ton enfant qui est tout content de te faire entendre sa première chanson qui est épouvantable à entendre, ou encore quand les parents achètent des batteries à leurs enfants.
Ouais.
Mais à quoi ils pensent?
Les batteries carrées, là, tu mets ta langue, là.
Non, les vraies batteries, boum, 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 que ça fait, là?
Ouais, un triangle, ça peut faire, là, mais c'est ça, tu sais. C'est surtout que c'est pas dur à apprendre, en plus.
Hey, je me
t'as pas besoin de payer de formation.
Ah ouais, il y a quelqu'un qui voulait me battre. Je pense que c'est là peut-être 3 semaines, Élodie. Tu sais, à l'Orchestre symphonique de Québec, là, tu sais, il y en a qui ont... Tu sais, le trompettiste, là, lui, sa place dans l'orchestre est super importante.
Ben oui.
Le gars qui joue de la batterie, c'est super important. Mais le gars qui joue du triangle... tu sais, mettons, dans la sol toune, là, tu sais, tu t'arranges pour pas rater la note, là.
Ah non, 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 c'est ça, là. Tu sais, c'est comme aussi celui qui a la cloche à vache, là. Toc, 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 tu sais, c'est... Oh, ouais, ça fait un petit son en arrière, mais c'est sûr que... Faut, ouais, quand c'est ton tour à donner ton coup, faut pas que tu le manques, là, ouais. Sinon tu vas être 20 minutes sans jouer.
Ah non, la diable, la flûte à bec, ouais, c'est ouais. Ça nous amène des idées noires.
À cette époque-là, on considérait ça comme un son satanique à cause de Berlioz, Hector Berlioz, et aussi il y a Charles Baudelaire. Lui, c'est plus là, 1860 à peu près.
Le Baudelaire.
Oui, et puis lui, il a sorti Les Fleurs du Mal.
Mm-hmm.
Lui, il faisait vraiment de la musique aussi satanique, qui était basée, souvent il y a eu des poèmes qui ont été bannis.
OK.
Parce que c'était trop satanique. Dont aussi l'Étanie de Satan, qui est un des poèmes les plus sataniques là, qu'il y a eu, qui est en français.
Mm-hmm.
Si les gens ont la chance d'aller sur YouTube, là, vous tapez ça, là, puis ça a été repris même par des groupes qui avaient un culte comme Théâtre des Vampires, des cultes sataniques envers la musique.
Ouais.
Donc, c'est ça. Puis là, déjà là, tu sais, on jouait un petit peu avec le diable là, déjà au 19e siècle. Là. Pour nous amener au 20e siècle, au début, puis là, il y avait le blues, le jazz, et il y avait des mamas qui étaient comme Big Mama Thornton, il y avait Bessie Smith,
ouais.
Qu'on disait que ces femmes-là, ces femmes qui chantaient du blues, parce que c'était pas commun de voir des femmes chanter du blues à l'époque,
mm-hmm.
Ben on disait, non, mais c'est parce que c'est des sorcières vaudou, là, t'sais. On les rentrait carrément là-dedans, là. Ça prenait pas grand-chose, là, vraiment, là. Il y avait aussi Mama Smith qui était dans cette gang-là, qui était accusée de vaudou.
Peut-être la façon dont elle chantait, la façon dont elle bougeait.
Aussi, tu sais, parce que des fois, c'est que... Lorsqu'il chantait, des fois, tu sais, il prenait, il tendait les bras, puis il shakait les bras comme un zombie, là.
Oh ouais, t'sais. Ben tu sais, le déhanchement, en fait, d'Elvis, là.
C'est ça, tu sais. Ben, eux autres, ils le faisaient déjà, tu sais, dans les années 20, ouais. les années 30.
Moi, je pensais qu'Elvis donc, avait tout inventé.
Ben, non, mais non, ça, là, c'est Forrest Gump, même.
Oui, c'est vrai.
C'est lui qui a tout expliqué ça. Donc, pour nous amener dans les années 20, les années 30, tu connais sûrement Robert Johnson.
Ben, l'histoire de Robert Johnson a été portée au cinéma. Elle a Il y a eu un documentaire aussi qui racontait l'histoire de Johnson. Je pense que c'est sur Netflix. Puis on parlait que cet individu-là aurait croisé le diable sur ben un quatre oui. chemins.
Le Crossroad. D'où vient la chanson d'Eric Clapton, Crossroad, qui raconte un peu l'histoire de Robert Johnson?
Ouais.
C'est que, pour faire une histoire vite sur Robert Johnson, c'est ça, c'est que lui... Il est, c'est un guitariste et il joue du blues, mais il joue mal.
Mais c'est un guitariste ordinaire.
C'est ça. Et puis, c'est ça. Puis, mais au point que plusieurs lui disent, écoute, arrête de jouer, là, tu fais fuir le monde, puis ça te donne rien, puis commence à jouer de la musique à poche à place, là, puis ça va aller mieux. T'sais. Et puis, à un moment donné, il décide de fuguer. C'est un gars du Mississippi, et puis il décide de fuguer. Il revient 3 ans plus tard et c'est le meilleur guitariste au monde. Il
ouais.
joue comme un dieu. Et là, tout le monde lui demande, il dit, ouais, mais comment t'as appris à être si bon que ça en 3 ans? Ça se peut pas, tu sais. Et puis lui, il arrive et il explique, tu sais, il est allé dans un quatre coins, il a croisé le diable. Et lui, le diable, ben, lui a dit, écoute, moi, je prends ton arme et en échange, je vais aller te chercher quand t'auras 27 ans. Et en échange, ben, je vais te donner le talent du meilleur guitariste au monde. Donc lui, il est allé raconter ça à tout le monde. Et c'est là, la légende de Robert Johnson, elle a commencé.
Ouais, il a vendu son âme.
Il a vendu son âme au diable, effectivement.
Attends un peu, je vais te faire entendre un extrait. Toi, tu dis, mais c'est Crossroad Blues?
Crossroads de Eric Clapton.
OK. Puis tu me dis que c'est dans quelle année, ça, Robert Johnson?
Robert Johnson, ben, gars, il est décédé en
1938. En 1938, à quel âge?
Ouais. Il avait 27 ans.
Il avait 20. Ah, il est rentré dans le groupe des 27 aussi.
Oui, on va s'en aller vers là, tu vas voir.
Voilà. Il a vendu son nom au diable, mais c'est rare en maudit. Les vieux guitaristes ou les vieux chanteurs de cette époque-là qui punchent sur.
Spotify.
Spotify, voilà, merci. Je vais vous faire entendre un extrait. La plupart des gens qui nous écoutent n'ont jamais entendu cet extrait-là, mais allez voir sur Spotify là, la toune. Vous allez l'entendre, c'est écœurant. Je vais vous faire entendre un extrait. Crossroad Blues à l'instant. C'est 24 millions d'écoutes. Mais c'est vraiment rare. Je te dis, là, je sais pas si tu vas souvent surfer sur Spotify, là, mais quand tu vas sur Spotify, de voir des chansons des années 20, 30, il y en a très, très peu qui tapent dans le 20 millions. Ben, c'est le cas de Robert Johnson qui aurait croisé le diable.
Oui, et c'est toute son histoire en même temps qui est quand même particulière parce que lui, c'est au niveau de sa mort. C'est que il est dans un bar et puis il joue dans un bar et puis il y a le propriétaire et sa femme qui ont la salle. Et la madame décide de le croiser. Et le mari qui est propriétaire du bar, ben, il est comme un petit peu jaloux de ça. Et il aurait empoisonné une boisson pour que... Puis ça a duré quoi, 3 jours? Il était à l'agonie pendant 3 jours. Et il est décédé 3 jours plus tard suite à l'empoisonnement du mari de la madame. Là, il y a... On reste encore avec le chiffre 3.
Ouais.
Au Mississippi, il y a 3 cimetières qui lèvent la main pour dire « Non, non, mais Robert, il est enterré ici. Là. Sa pierre tombale, elle est ici. Là. Il est enterré ici, Robert. Là. Il n'est pas enterré là-bas. Là. » Là, il y a 3 cimetières qui se battent là, pour vraiment là, à savoir que c'est eux qui ont le vrai corps qui est enterré là.
OK, donc, parce que Robert Johnson, aux States, il doit y en avoir une pléthore. Là, à 350 millions d'Américains, là, Robert Johnson, vont avoir une coupe.
C'est un nom commun. Là, ouais. C'est à peu près comme Michel Tremblay. Là, exact. Donc, c'est ça. Là, il y a 3 endroits qui se chicanent, à savoir que non, c'est nous autres qui a le vrai corps enterré. Tu sais, ça fait partie un peu de la mythologie là, autour de Robert Johnson. Et pour savoir l'influence de Robert Johnson, c'est pas compliqué. Il va influencer une armée de guitaristes british surtout. Keith Richards, quand il l'a entendu pour la première fois des Rolling Stones, il a dit OK, c'est bon, mais c'est qui l'autre guitariste qui joue en arrière de lui? Là, il dit non, il n'y a personne d'autre, là, c'est lui qui joue, là, tu sais. Il fait tout sur la guitare, là, tu sais. Et il va influencer vraiment, là, comme les Brian Jones, Bob Dylan, Jimmy Page et Jimi Hendrix aussi, Eric Clapton, tous les artistes. Parce qu'il faut dire que dans les années 60, les gros groupes rock, que ce soit les Beatles et ainsi de suite, qui sont de la Grande-Bretagne, ils sont tous influencés par le blues. Ce qui va être le cas aussi pour les années 70, comme les Led Zeppelin, Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple. Mm-hmm. Toute cette musique-là va être influencée par le blues. Ouais.
Mais Elvis Presley est influencé par le gospel, le blues, le jazz.
Ouais, un petit peu le jazz, mais lui, c'est vraiment le gospel. Là. C'est vraiment là, au niveau du gospel où il va avoir son influence. C'est sûr que cette influence-là va venir parce que le blues n'était pas si populaire que ça, hein? Aux États-Unis, même si c'était plus des artistes américains.
Okay.
Pink Floyd, le nom Pink et le nom Floyd vient de 2 bluesmen américains. Et c'est des Anglais, là, tu sais. Donc, il aura fallu que le plus populaire qu'il va avoir eu, il faut attendre à la fin des années 60, B.B. King, qui va devenir très populaire et qui va se faire un nom grâce en faisant la première partie des Rolling Stones. Et là, on parle du marché américain, là, parce que le blues, c'était plus une musique marginale à l'époque. Là. Mais il a fallu que ce soit des artistes british qui sont influencés par le blues pour donner un coup de pouce au blues dans le marché nord-américain. Sinon, c'était marginal comme son. Là, t'sais. Donc, à partir de B.B. King, après ça, ben, on a eu des groupes qui sont arrivés, les ZZ Top, George Thurgood et ainsi de suite, et plusieurs autres, jusqu'en passant par Lenny Kravitz. Là. On va avoir une grosse armée après ça qui va arriver de guitaristes bluesmen. Kingsman.
Ouais.
Mais pour dire que lui, Robert Johnson, il va vraiment là, influencer là, les guitaristes des années 60. Sans Robert Johnson, on n'aurait peut-être pas eu les Stones okay. comme on les a connus aujourd'hui puis les autres. Là.
Est-ce qu'on a réussi à reproduire sa technique? Parce que quand j'ai fait quelques lectures sur cet individu-là, on mentionnait qu'il y avait une technique particulière qui laissait penser à certains individus qu'effectivement, il y avait deux personnes qui jouaient de la guitare en
Jimi
même
Hendrix
temps.
Jimi Hendrix était capable. Ah ouais? Il y en a plusieurs qui ont été capables. C'est sûr qu'il y a plusieurs styles de guitare. Tu sais, le style qu'il faisait à cette époque-là, qui était le style blues, on a arrêté un petit peu de le faire, sauf qu'on a gardé l'influence. C'est sûr, aujourd'hui, tu vas avoir d'autres guitaristes qui sont arrivés, des virtuoses, des... Tu sais, Steve Vai, t'écoutes Steve Vai ou Eddie Van Halen ou Joe Satriani, c'est sûr, ça se ressemble pas du tout à ce que lui faisait à l'époque. Mm-hmm. Tu sais, c'était un autre style de guitare, vraiment, puis là, ça l'a changé. Mais Jimi Hendrix, il a vraiment conservé un petit peu plus le mood de Robert Johnson dans son okay. style, dans ses chansons bluesées comme dans Howl Along Watchtower et Joe, dans les chansons les plus connues. Les Low Wings aussi est influencé par Robert Johnson. Et c'est ça, mais vraiment, là, garder le mood, là, tu sais, ça a été surtout Jimi Hendrix là, qui l'a conservé.
OK. Mais finalement, c'est le propriétaire de bar, après l'avoir empoisonné, qui l'aurait tué.
Ouais.
Mais comme il avait vendu son âme au diable...
Ben, c'est ça. C'était à 27 ans. Il y avait le dé du 27 ans. Parce qu'il y a comme une malédiction dans la musique hein, sur les artistes qui sont morts à 27 ans.
Ouais.
Bon, il s'agit de penser à justement Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse, Peter Hamm, il y en a plusieurs, Brian Jones. Et ce qui arrive, c'est qu'on dit, bon, ils ont vendu leur âme au diable pour devenir populaire et que à l'âge de 27 ans, le diable va venir les prendre. Mais ça, c'est vraiment une mythologie. Parce que si on regarde l'âge où les artistes ont plus... Bon, c'est sûr que c'est plus les années 60, 60 à 70 ans, 80 ans qui vont plus mourir. Mais si on parle là, de 20 à 50 ans, on a fait une étude justement à voir l'âge où ce que les artistes meurent le plus. C'est l'âge de 28 ans.
Okay.
Il y a plus d'artistes morts à 28 ans qu'à 27 ans.
Ah oh, ouais. Okay.
Mais pourtant, il n'y a rien sur le 28 ans. T'sais.
Non, puis pourquoi ils ont une vie plus courte que la plupart des, des individus? C'est ça, c'est qu'ils ont une vie particulière.
Hey,
Elvis, là, moi, ça me frappe à chaque fois.
42 ans, c'est jeune.
Je trippe sur Elvis, puis quand je vais voir ses spectacles qui sont disponibles sur YouTube, de voir de quoi il a de l'air à 42 ans, ça me frappe, parce que là, moi, je suis un peu plus vieux qu'Elvis, puis... c'est sûr que c'était à l'époque, mais tout ça, mais il était magané, là, c'était fini. Là.
Ça, c'est en 77, 42 ans. Ça veut dire quand on regarde des archives de 72, par exemple, il n'y avait même pas 40 ans là, là-dessus. Puis là, tu le regardes, on dirait qu'il y a 50 ans passé.
Mais c'est en raison de l'alcool, la drogue, le stress.
Oui, le stress aussi.
Les individus qui sont torturés.
Puis en même temps, il n'y a pas eu une vie un peu comme... c'est pas celui que je trippe le plus, là, Michael Jackson. Tu sais, c'est du monde qui, dès qu'ils sont très jeunes... Elvis, ça a été à l'adolescence où il a commencé à se faire connaître. Mais comme Michael Jackson, tu sais, ceux qui commencent une vie très jeune, tu peux pas avoir une vie.
Jackson, c'était bébé. Là.
C'est ça, tu sais, il y avait quoi, 7 ans à peu près avec les
Jackson 5.
ABC, les Jackson 5. C'est dur d'avoir une vie équilibrée après ça. Puis Elvis, ça a été pareil. Je dis pas qu'il était connu quand il était enfant, mais quand il est arrivé, il a commencé à se faire connaître. That's all right, maman. Il avait quoi, 17 ans, tu sais. Donc, à partir de là, tu viens une superstar connue, tu sais. Oui, tu vas me dire, Paul McCartney, il a quand même réussi à se garder une vie quand même équilibrée avec le temps. Oui, il y en a qui se gardent une vie équilibrée, mais il y en a beaucoup que ça fait pas, là, t'sais, parce que tu vis dans un autre monde depuis presque toujours.
Mais les Beatles ont-tu autant trippé que, je sais pas, moi, la gang de Pink Floyd? Parce que j'ai toujours eu l'impression que les Beatles avaient une image un peu plus propre, là. Que le band Pink Floyd, où on nous a toujours dit que t'sais, les tunes ils ont été composées quand les gars étaient intoxiqués, là.
Oui, c'est ça. Mais les Beatles, oui. C'était pareil aussi, les Beatles.
Aussi, OK.
Il y avait le côté yéyé qu'on a... Parce que les Beatles, ils ont eu leur côté yéyé. C'est pour ça qu'on les rentre un petit peu plus là, dans le pop. On leur change un petit peu plus le son, contrairement aux Rolling Stones, qui ont tout le temps été pur rocker.
Ouais.
Tandis que les Beatles, au début, il y avait un petit son pop-rock. Avec She Love You, tu sais, le côté yéyé qu'il y avait. Mais après ça, au milieu des années 60, là, qui sont arrivés, puis comme Sgt. Pepper dans les Hard Club Band, là, on voit un côté beaucoup plus rude comme son, puis côté psychédélique. Là, on voit les effets aussi des gars qui tripaient sur des Hare Krishna, puis ces affaires-là, là, en Inde, là. Tu sais, ils voyaient ça, parce que même que, en parlant d'Hare Krishna, si tu écoutes la pièce My Sweet Lord, qui est un des grands classiques, classique de George Harrison, des Beatles. Il avait sorti cette pièce-là, lui, pour les Beatles au début. Et sauf que la maison de disques, ils ont dit, non, écoute, là, si tu sors cette chanson-là, puis My Sweet Lord, puis Hare Krishna qu'on entend dans les paroles, ça passera pas. T'sais, on était encore un État qui était très religieux, catholique ou protestant du côté de l'Angleterre. Ouais.
C'est peut-être en raison de la musique que j'ai ce style de préjugé-là, parce que quand j'écoute Pink Floyd, moi, il y a des tunes que j'aime de Pink Floyd, mais il y en a d'autres, je me dis, fallait être givré en sacrifice là, pour
Sid
écrire.
Sid Barrett, je peux te confirmer la période Sid Barrett. Là,
mais les Beatles, on dirait que ça va de l'air plus propre.
Oui, c'est vrai, c'est ça. C'est la période yé-yé, c'est ça, c'est la perception, parce que le groupe... Il envoyait cette perception-là. Mais quand on parle de la deuxième partie des Beatles, vers la fin, là, les gars, là, tu voyais qu'ils étaient beaucoup plus...
Ils se défonçaient?
Ça se défonçait aussi. Oh, là, ouais. La plupart, il y en a beaucoup qui se défonçaient. Mais il y en a qui se défonçaient pas du tout. Des gars comme Frank Zappa. Tu sais, l'artiste, un des artistes les plus marginaux de l'histoire de la musique, Frank Zappa. Et pourtant, il prenait pas de drogue, presque jamais de l'alcool. Tout ce qu'il ferait, c'était la cigarette qu'il prenait, là, tu sais. Et à une époque, même Pink Floyd, les gars sont devenus un petit peu plus sobres avec le temps. Mais il y en a, par exemple, parce qu'on a toujours l'image des gars comme Motley Crue, par exemple, Guns N' Roses, qu'on a connu dans les années 80, puis... C'est sûr que le film de Dirt, le début, aide pas bien, là. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, là, on voit l'image que les gars sont tout le temps sur le party, puis ils défoncent des chambres d'hôtel. Led Zeppelin le fait aussi, défoncer des chambres d'hôtel, des gros parties. Kiss à Montréal, à un moment donné, c'était dans les années 80, ils vont dans un bar, le Backstreet, à Montréal, et ils ont décidé de louer le bar pour eux autres, puis ils ont tout déboîté le bar au complet. Ils ont déchiré les tables de bière, le verre, puis... T'sais, pourquoi ils ont fait ça? C'est con, là, mais c'est ça, tu sais, c'est que les gars étaient fuckés à un moment donné, puis ça fait partie de la musique. Aujourd'hui, c'est parce que c'est drôle, parce qu'on a l'image de l'époque, les gars, il y avait des Jack Daniels sur scène. Aujourd'hui, c'est des bouteilles d'eau.
Puis tu parlais de l'âge des artistes, tu as nommé Frank Zappa, et c'est un gars qui est décédé du cancer de la prostate. Aujourd'hui, tu décèdes pratiquement pas du cancer de la prostate.
Non,
là, si tu as ça à 70 ans, là, ils peuvent le traiter un peu, mais tu peux l'avoir pendant plusieurs années sans aucun problème. Lui, il est décédé à 52 ans.
Oui, il est décédé jeune, malheureusement.
Tabarouette.
Oui, oui, oui. Un grand de la musique. Frank Zappa. Ben lui, Frank Zappa, c'est parce que il avait pas peur d'expérimenter n'importe quoi dans la musique. Oui, il se cassait la gueule. Hey, il a sorti. Si on calcule comme il faut les albums qu'il en a fait, là, il en a fait à peu près 200. C'est fou, là. Mais il a tellement fait de l'expérience dans la musique. Il a essayé n'importe quoi. Souvent, il s'est cassé la gueule. Il a même sorti sa maison de disques, Z Records. Et lui, il voulait avoir des groupes weird, mais c'est là que Alice Cooper s'est fait un nom. Parce qu'un de ses clients, c'était Alice Cooper.
Okay.
Donc, c'est Alice Cooper. Ils ont commencé avec Frank Zappa au début. Pas de Frank Zappa, pas de Z Records. Il n'y a pas d'Alice Cooper, là, tu sais.
Hey.
Donc, c'est ça, tu sais. Puis la première fois qu'il avait eu un rendez-vous avec Alice Cooper pour l'enregistrement, il dit « Oui, tu venez demain à 7h, on va vous enregistrer. » Et puis les gars, ils arrivent à 7h le lendemain. Et puis, il cogne. Frank Zappa est en robe de chambre, puis il est en beau joie le vert. Puis il dit, ben, tu nous as dit de venir à 7h. Il est 7h. Il dit, bon, mais 7h du soir, ma bande de cave, pas 7h du matin.
Mais c'est capoté, quand tu parlais de l'âge du décès des artistes là, qui étaient les plus populaires, tu disais 28. Moi, j'aurais embarqué dans la danse. J'étais un gars qui suit les tendances. J'aurais dit 27 ans en raison du club des 27. Bon, on a comme tout un billet cognitif. À chaque fois qu'on entend qu'il y a un artiste qui était de renommée, qui est décédé à 27 ans. Oh! Club des 27. Ouais. Mais en réalité, ça devrait être le club des 28 parce qu'il y en a plus qui sont décédés à 28 ans.
Oui, c'est ça qui est paradoxal. C'est que le club des 28 est plus gros que le club des 27.
Ouais.
Mais on a fait que... tu sais, qu'on a décidé que c'était le club des 27.
Ouais.
Et puis, surtout que... Aussi les noms qui sont morts. Le fait aussi qu'il y a eu les 3J qui sont morts à moins d'un an.
Les 3J?
Oui, Jimmy, Janis et Jim Morrison, Jimi Hendrix puis Janis Joplin.
OK.
Les autres sont morts en quoi? En 9 mois, les 3J.
Les 3 sont décédés
dans l'espace
de 9 mois.
Ben oui, septembre 70, Jimi Hendrix.
Ouais.
Puis quand Janis Joplin, elle apprend ça, elle dit, ben voyons donc, comment est-ce qu'elle a fait pour se rendre jusque-là puis mourir comme ça, ça n'a pas de bon sens. Un mois plus tard, c'est son tour.
OK.
Et au mois de juillet 71, ben c'est le tour de Jim Morrison.
Ben, tu vois, c'est peut-être ces 3-là qui sont responsables de la grande renommée du club des 27.
C'est ça, les 3J, oui.
Est-ce que c'était tous des gens qui avaient vendu le rhum au diable?
Ben, ce qui paraît, oui, c'est ça. En échange de ton âme, ben, c'est ça, il va venir te chercher quand tu auras 27 ans. Ouais. Mais plusieurs, tu sais, ça a été comme ça, là. Mais aussi, il y a d'autres façons aussi. Le diable était présent dans la musique. Lila Richards, Tutti Frutti, et ainsi de suite. Lui, on disait qu'il faisait de la musique du diable. Sa musique, elle était diabolique. Et puis, il y a tellement eu d'influence au niveau de la religion qu'il est devenu ouais. pasteur pour se faire pardonner, tu sais. Ça a été pareil, lui, de son côté, tu sais. Mais on disait aussi même que Elvis, c'était de la musique du diable. Il y avait des stations de radio qui étaient vraiment là, qui disaient non, mais ça n'a pas de bon sens, on ne jouera pas du rock and roll, c'est de la musique du diable. Ouais. Il défaisait des disques de musique de rock and roll. Tu avais des jeunes qui dansaient, mettons, puis pendant un concert d'Elvis, puis il y avait la police qui faisait la surveillance, puis il n'était pas question que les jeunes, un gars et une fille, dansent ensemble. Là, parce que, tu sais, ça va être une influence par le diable.
Un chanteur qui fait des gestes inappropriés sur une scène.
Alors, c'est ça, tu sais.
Mais moi, j'étais pas là dans ce temps-là. J'étais pas là, j'étais pas encore arrivé. J'étais même pas un projet. Et tu sais, j'ai appris que tout ça existait, là, la musique du diable, les parents qui détestaient cette musique-là parce que ça tu sais, les enfants faisaient des niaiseries là-dessus dans Footloose.
Footloose, oui, effectivement, c'est un bon exemple, Footloose.
Tu sais, Footloose, là, c'est là où j'ai su qu'il y avait de la musique qui était considérée comme étant de la musique du diable. En raison du fait que la religion était très, très, très présente à ce moment-là. Puis c'était aux États-Unis, des endroits un peu plus chrétiens. Là,
c'est ça. C'est que ce qui est arrivé, c'est que, tu sais, la danse du rock and roll, le rock and roll, tu sais, ça vient beaucoup des pays sudistes. Donc, là, les gens, ben, se laissaient aller, puis il y avait une plus grande liberté. Et là, ben, tu voyais la droite religieuse du Massachusetts, de New York, tu sais, des pays, les États du Nord qui disaient, ben non, qu'est-ce qu'ils font là? Eux autres, ça n'a pas de bon sens. Là, tu avais des preachers qui s'en allaient de New York, du Massachusetts, de la Pennsylvanie, et ils s'en allaient au Kentucky, en Louisiane, et ainsi de suite, Mississippi, ouais. pour dire, ah, mais là, les jeunes, là, vous allez arrêter de ça, vous allez arrêter ça, là, vous êtes possédés, vous voyez là, que vous êtes en train de danser, là, ouais. c'est le diable là, qui est dans vous, puis qui est en train de vous posséder, arrêtez de danser, ça n'a pas de bon sens, puis cette musique-là, ces artistes-là qui sont des complices du diable, qui sont en train de vous posséder, puis c'était ça, là.
Écoute, moi, je l'ai vu comme plus tard, tu sais, puis où je me faisais garder quand j'étais jeune, dans les années 80, mm-hmm. Il y avait déjà des ados qui étaient là, qui écoutaient de la musique et j'entendais régulièrement que certains disques, quand mm-hmm. ils faisaient jouer à l'envers, oh. Eric, eh ben, il y avait un message satanique qui ouais. faisait en sorte que ça disait de tuer des individus ou encore de te suicider. Tu sais, parce qu'il disait que c'était clairement la musique du diable, mais en réalité... J'imagine, puis je suis pas un grand connaisseur, tu es un musicologue, un docteur en musicologie. Tu sais, mais moi, j'imagine que c'est un peu comme la pareidolie. Tu sais, ouais, la pareidolie, c'est t'as la tête couchée au sol, tu regardes les nuages, puis d'un coup, les nuages prennent forme, puis tu dis, ah, tu vois, ça ressemble à un chien. Ah, ben ça ressemble à une voiture. Ça s'appelle carrément de la pareidolie. Le cerveau déteste voir des choses qu'il ne connaît pas. Donc, parfois, il remarque certaines ressemblances, puis il t'envoie cette information-là. Tu sais, un peu quand on était jeune, toi et moi, on regarde dans l'embrasure du garde-robe, puis avec les vêtements, ça faisait une certaine forme, puis on avait l'impression que c'était un monstre qui nous regardait.
De plancher.
Ça, c'était de la,
des formes.
De la pareidolie. Donc, j'imagine que c'est la même chose. Quand on faisait jouer un disque à l'envers, on entendait une genre de phrase, puis là, ben plus on la faisait jouer, plus ça ressemblait à des mots qu'on connaissait.
Ben oui.
Puis, tu sais, comme si les gens, en musique à l'envers, ils parlaient toutes les langues. Là, tu pouvais retrouver de la musique.
Ouais,
tu pouvais...
Langue satanique, ouais, latin.
Exact. Mais tu vois, moi, je l'ai entendu ça dans les années 80. Fait que ça a été répercuté sur plusieurs décennies.
Ben oui. Comme l'album Dark Side of the Moon de Pink Floyd. On disait que si on parle le disque, en même temps que le film Le Magicien d'Oz,
ouais.
le disque a été fait en fonction des images du film Le Magicien d'Oz.
Sur le même tempo?
Ben oui. Tu sais, puis tu vas avoir un coup, puis là, tu vas avoir l'épouvantable qui va sauter dans les airs, et puis en même temps que tu vas entendre un coup de drum, tu sais.
Ouais.
Mais, tu sais, ça, les gars l'ont dit, on n'a jamais eu cette idée-là, là. Tu sais, c'est vraiment, là, ça a été poussé. Les gars de Pink Floyd, ils n'ont jamais, jamais regardé le film Magicien d'Oz, puis on va baser notre musique en fonction de ce film-là, tu sais.
Non.
ça a été des grosses rumeurs. Là, donc, dans les années 50,
c'est sûr que... Si tu veux de la musique un peu plus rythmée, t'es aussi bien de te baser sur un film de fesses que sur le
ben magie. Ouais. Ouais, c'est en plein ça. Oui, c'est ça. Bon, moi, c'est ça que je ferais. Ah non, pas le magicien d'os. Emmanuel. Ouais. Ça serait plus un Emmanuel, là, ça irait... Ouais.
Bleu mais... nuit. Hey, tu me rappelles tout le temps des souvenirs. T'es ouais. vraiment un historien dans l'ombre.
Ouais. Non, j'ai jamais pris de drogue. Ça fait que, dans le fond, c'est pour ça que j'ai une si grande mémoire que ça.
T'as jamais pris de drogue?
Non.
Tu vois, on dirait pas.
Ouais, hein, c'est ça, hein, c'est ça. C'est pour ça que je fuck.
Mais, et bon Dieu, qu'on était longtemps devant la télé le soir. C'était le samedi soir, hein?
Ouais.
Puis on était longtemps devant la télé, puis là, les yeux nous brûlaient, puis là, tout d'un coup, on avait réussi à toffer jusqu'à Bleu Nuit.
Ouais.
Et là, Emmanuel commençait.
Ouais, l'intro de Bleu Nuit, là. Puis, ouais. Oh, ah, là, je suis correct.
Au revoir des madames.
Ouais.
Au revoir des madames.
Donc, c'est ça.
Il n'y avait pas de poêle dans ce temps-là. Ouais.
Ah, non, non, non.
Il
non.
laissait ça tout là.
Ouais, ça c'est certain, là, tu sais. Ah non, tu sais, puis on était là, puis même les manuels, après ça, on découvrait encore plus que ça, puis là, c'était plus rien, manuel, là, on était rendu à un autre niveau, là,
ah ouais.
lorsqu'on voyait de quoi qui était plus hard, là, tu sais.
Écoute, moi, j'avais une cassette, là, que j'avais mis dans un, tu sais, c'était un genre de cassette, là, mettons, de lancer compte, là,
mm-hmm.
puis là, ben, c'était l'enveloppe, là, de lancer compte, puis là, j'avais ma fameuse cassette des Emmanuel, toutes ces affaires-là, j'enregistrais tout ça sur VHS, j'étais un petit wise,
ah ouais.
là.
Ah ouais, bah ouais.
Puis là, quand mes chums dans la maison, la mère était pas là. « Hey, les gars, j'ai quelque chose pour vous autres. » On était autour de la télé et on regardait ça. Bon Dieu.
Tant que c'est pas la mère qui ouvre, on va regarder l'ancien compte.
C'est oups. Jamais arrivé.
Ah non.
Elle aimait pas le hockey.
Ah, une chance. Non, mais ça aurait pas arrivé. Donc, les années 50, ben, c'est sûr que ça va être très, très, très... très sévère, vraiment, tu sais, au niveau de la musique. Et là, bon, on mélange le diable, la religion qui est à travers de tout ça, puis qu'on dit, bon, ben, c'est le diable qui est autour de tout ça. Puis, en plus que dans d'autres pays qui disaient que c'était, on disait que le rock and roll amenait vraiment une influence dans les autres pays en disant que, oui, on tente de devenir communiste par le rock and roll. Mm-hmm. Tu sais, c'était vraiment, on était en guerre froide aussi, là, tu sais. C'était l'époque aussi, parce que le rock and roll est né en pleine guerre froide.
OK.
Donc, il y avait tout ce côté-là au niveau de la politique, mais ça, c'est complètement autre chose. Aussi, dans les années 60 aussi, ben les filles commencent à avoir du linge pour eux autres. Hein. Faut dire, parce qu'il faut dire, dans les années 50, la période Elvis, les filles, les jeunes filles qui trippaient ouais. sur la musique qu'on voit, c'était tout du linge qui était porté par leur mère avant, qui leur faisait plus.
Hein?
Donc, il n'y avait pas de linge pour les jeunes filles qui se vendaient.
Okay.
C'est à partir des années 60 où on a commencé à avoir du linge pour les filles.
Tu m'apprends ça.
Tu sais, ouais, c'est vrai. Puis il n'y avait pas de linge pour filles.
Okay.
Et même des fois, on entend, mettons, comme nos pères, nos grands-pères qui disaient quoi? Ils disaient, ouais, ben nous autres, gars, moi, j'avais ma paire de souliers, mais mon frère, il le portait avant, puis mon autre frère a porté la même paire de souliers.
Bon, mais dans le test, c'était fort, ça. Là.
Ah, ouais, mais c'était pareil pour le linge pour filles. Donc, la maman qui avait du linge qui ne faisait plus, ben c'était sa fille qui le recevait. Et quand sa fille agrandissait, ben. Ça se passait le même linge.
Mais ils prenaient soin de leurs affaires aussi.
C'est ça, puis c'était du linge de leur mère. C'était pas du... Tu sais, la mini-jupe, là, était pas là encore. Faut attendre vraiment dans les années 60, là.
Il avait ça à mi-taine, puis ça dehors, puis...
Ah oui, c'est ça, tu sais.
Aujourd'hui, on met ça dans la laveuse, dans la sécheuse, on met un peu de base, merci, bonsoir.
Moi, ma grand-mère est née au 19e siècle, je me souviens que j'étais jeune. Elle dit, voyons, qu'est-ce qu'ils ont, les femmes, parce que là, tu sais, comme, mettons, j'avais une cousine qui avait un seul enfant, tu sais.
Ouais.
Elle dit, qu'est-ce qu'ils ont à chialer, les femmes d'aujourd'hui? Ça n'a pas de bon sens. Elle dit, moi, j'ai eu 17 enfants. Elle dit, je l'avais avec une planche. Puis, je suis pas morte. Je suis dit, aujourd'hui, il y a un enfant, il y a une laveuse, une sécheuse, un lave-vaisselle, puis ils chialent, puis ils sont fatigués.
Ouais.
Ils comprenaient pas ça, tu sais.
C'était autre temps, autrement, mais ben il y avait aussi, tu sais, ta grand-mère, sans diminuer tout ce qu'elle a fait, parce que merci beaucoup aux gens comme ta grand-mère qui ont contribué à peupler le Québec, là. Tu sais, dans le temps, tu sais, quand ton enfant avait 17 ans, puis t'avais un bébé naissant, mais ton enfant de 17 ans était capable de s'occuper du bébé naissant.
Oui, c'est vrai.
T'sais, aujourd'hui, mettre un enfant dans les mains d'un enfant de 17 ans, non, là, tu stresses, là, mais il y avait plus de maturité à cette époque-là. Les frères et les sœurs s'aidaient à s'habiller et tout ça. Cela dit, ça leur enlève rien à ces grands-mères-là qui travaillaient extrêmement fort. T'sais, ils se levaient le matin très tôt, aux alentours de mémoire, c'était 4h30, 5h du matin. Commençaient le déjeuner, puis là-dedans, dans le déjeuner, il y a des enfants qui mangeaient pas certaines affaires et tout ça. Par la suite, la vaisselle, sale qu'il devait faire, préparer le repas du midi, la vaisselle, le ménage à la maison, préparer le repas du soir, la vaisselle, le lavage, l'éducation des enfants quand ils revenaient de l'école. Puis après ça, ben monsieur arrivait à la maison, puis il n'était pas content, puis il avait besoin de m'amour. M'amour avec monsieur, puis après ça, elle se couchait, était minuit. C'était brûlé. Là.
Hey, pire que ça, je vais dire en 10 secondes, là, moi, ma grand-mère Flynn, là, qui est une Allemande, OK? Eux autres, ils restaient dans le quartier Saint-Sauveur, OK? Elle avait un paquet d'enfants, puis elle en entraînait 4-5 avec elle, là, puis elle en avait sur le dos. Là, partait du quartier Saint-Sauveur, montait jusqu'au Parlement, elle allait faire du ménage là, au Parlement. Montait ça à pied à tous les jours, là, t'sais, jusqu'à la Haute-Ville, jusqu'au Parlement.
Ouais.
Fallait revenir le midi, fallait qu'elle redescende pour aller faire le repas du dîner. Puis après ça, remonter jusqu'au Parlement, continuer à faire du ménage et redescendre. Pendant ce temps-là, mon grand-père, ben, il passait la journée à regarder le journal et fumer de la pipe. Il travaillait même pas.
Ah non, c'est incroyable. Il travaillait même pas.
T'sais, c'était comme ça. Là, c'est pour ça que nous autres, aujourd'hui, dans la famille, on glorifie beaucoup notre grand-mère pour ça. Parce que on dit tout le temps que c'était la plus forte de la famille. Là,
mm-hmm.
Parce que là, en plus, elle traînait des enfants sur elle. Là. Puis elle montait à la Haute-Ville, l'esprit. Puis... Mais c'était comme ça. T'sais, pour elle, c'était normal. T'sais.
Non, c'était des machines de guerre.
Ah, c'était des machines de guerre. Oh, ouais, puis,
aujourd'hui, là, tu me demandes de prendre les responsabilités qu'elle avait dans le temps.
Oublie ça. Puis pourtant, l'alimentation.
C'est fini, achevez-moi.
c'est ça. Puis on dit, le monde mangeait mal dans ce temps-là, mais tabarouette, il mangeait des patates jaunes, puis il était aussi fort.
Ouais, c'est ça.
Donc, on est rendu aussi avec l'arrivée des Beatles. Hein? Et les Beatles, ben, la religion, il y en a, bon, on commençait à dire par le diable que c'était les quatre chevaliers de l'Apocalypse. Et puis, c'est ça, là, on a commencé à faire des histoires là-dessus, comme les Rolling Stones aussi, avec Sympathy for the Devil. Lorsque les Stones sont arrivés avec cette pièce-là, on s'est dit, tiens, hein, vous voyez, là, hein, gars, la sympathie pour le démon, et ainsi de suite. Mais en réalité, les gars ont fait cette chanson-là, c'était une chanson sur la famille Romanov, le tsar en Russie, qui sont décédés dans les années 10. Là, ouais. C'était une chanson sur ça, c'était même pas, ça n'avait rien à voir avec le diable, là, t'sais. Mais c'est ça. Après ça, ben, bien sûr, on a commencé à avoir des groupes sataniques. Le premier vrai groupe satanique, c'est The Coven. The Coven sont arrivés avec le signe vraiment du diable, parce qu'il y a le signe des métalleux. Le signe des métalleux, c'est on lève avec notre main l'index et le petit doigt. Ça, c'est le signe des métalleux. Et le signe du diable, c'est avec le pouce. On ouvre le pouce. Ouais. La queue du diable et les deux doigts, c'est les deux cornes. Avec la queue du diable, qui a été popularisée par Gene Simmons de Kiss. Même qu'à un moment donné, il voulait acheter les droits de ce signe-là. T'sais. C'est plus que personne l'utilise. C'était con comme ça. Là, mais les premiers à l'avoir fait, c'était le groupe de Coven, un groupe satanique des années 60.
Okay.
C'était eux autres. Eux autres, ils ont été vraiment les premiers sataniques. Là,
puis en 60, est-ce qu'ils risquaient des arrestations policières?
Ah ben oui, ça c'est sûr, parce que là, c'est encore mal vu, là, tu sais. Même encore aujourd'hui, Marilyn Manson s'en va faire un concert, surtout dans un pays, dans un état sudiste, là, il s'en va au Kentucky, par exemple, là. Marilyn Manson, ben, il va y avoir un regroupement de droites religieuses qui vont manifester pour pas que Marilyn Manson se présente sur scène.
Ouais, ça, je comprends. Mais tu sais, une police qui est aussi une police morale, tu sais, des fois, on parle de ça, la police religieuse dans certains pays où si ta jupe est trop courte, ça se peut que tu manges un coup de canne dans un jarnac. Là.
Mm-hmm.
Une police morale, tu sais, ça existait ici, puis c'est surprenant.
Ben oui,
là.
Ben oui.
Puis
ben
c'était les mêmes personnes, une police judiciaire, puis police morale.
Ouais. Ben imagine, tu pouvais aller sur la plage aux États-Unis, là, tu pouvais aller sur la plage dans les années 60, et il y avait un policier qui passait avec une règle, et il devait mesurer le costume de bain. Là. Oh, OK, ça passe. Oh, toi, c'est trop court. Dehors. T'sais, c'était comme ça, là, tu sais. C'était fou comme ça, là. C'est pas voilà 200 ans, ça, là. Tu sais, c'est l'époque... c'est l'époque de Jean Béliveau, là, tu sais.
C'est vrai.
Tu sais, ça fait pas longtemps. Donc, bien sûr, il y a Black Sabbath qui arrive dans le décor, et puis Black Sabbath, eux autres, sont fait connaître, eux autres, par un concours musical. C'est que le gagnant du concours musical devait aller en disquer. Mais il termine finaliste. Ça finit là, puis bon, les gars, ben, coudonc, tu sais, c'est plate, mais ça finit là. Sauf que le chanteur décède du groupe gagnant. Donc, le groupe s'en retrouve à aucun chanteur. Il dit, bon, ben, nous autres, on ne peut pas enregistrer d'album, on n'a plus de chanteur. Donc, on est allé voir les finalistes et c'est Black Sabbath qui est arrivé puis ils ont enregistré. Et là, on a commencé à dire que, oui, mais c'est parce que ça, là, ça a été un rituel satanique que le groupe a fait et que, parce qu'ils ont vu des ombres pendant, le drummer a vu des ombres pendant la nuit et que, bon, grâce à ces ombres-là, c'était Lucifer qui a donné une malédiction au chanteur du groupe gagnant pour qu'il meure et que ça permet à Black Sabbath d'en enregistrer. Tu sais, mais tu sais, c'est comme ça qu'on a commencé à croire. Là, tu sais. Ouais. Et puis, c'est ça. Tu sais. Juste une petite anecdote. Tu sais comment est-ce que les gars étaient très pauvres dans Black Sabbath? La première paye que Ozzy a eue, c'est acheter une paire de souliers. C'est titan. J'ai jamais acheté des bas. Des bas et des souliers. Parce qu'il n'a jamais acheté ça de sa vie, parce que c'était tout le temps du stock, soit qu'il volait ou... Mais c'était la première chose qu'il a acheté avec sa première paye de Black Sabbath.
Des bas et des souliers.
Oui, parce que les souliers qu'il avait étaient percés, puis les bas, ben, sûrement pareil aussi.
Mais venant d'Ozzy, je le félicite. J'aurais pensé qu'il aurait acheté d'autres choses.
Mais non, c'est ça. c'est ça. Soit qu'avant, il volait, parce qu'il était cambrioleur au début, tu sais. C'était un petit bum au tout début qui a commencé à chanter.
Ouais.
Mais avec sa première paye, ben, c'est ça qu'il s'est acheté. Oui, c'est vraiment bravo, Ozzy.
J'aurais pensé, moi, une bétonneuse là, qui, dans laquelle il y a de la poudre. Là, je sais pas.
Oui, c'est ça.
Des bas et des souliers.
Ouais. Bien sûr, Alice Cooper, c'est... Alice, faut pas l'embarquer tellement dans le diabolique, hein, s'il y en a qui pensent à Alice, parce que lui, c'est plus de l'horreur. Mais il n'y a rien de satanique là, autour d'Alice Cooper, à part que lui, bon, c'est un provocateur avec des histoires de serpents et de poulets. Mais il n'a jamais fait de quoi que ce soit qui était tellement satanique. Là, t'sais. Là-dessus, il va jouer beaucoup avec la maladie mentale et ainsi de suite. À part que, bon, il y a une valeur du nom qu'on dit que, bon, le A égale 100, le B 101, et si on calcule tout ça, ça fait 666, mais ça n'a aucun rapport. Là, t'sais.
Ah, y a tout le temps des gens qui vont jouer un peu avec la numérologie, tasser des affaires qui font pas leur affaire pour finalement arriver le numéro de la bête.
Effectivement. On parlait de Coven, le groupe. Ben, eux, en 68, justement, c'est la maison de disques Mercury qui ont décidé de retirer du marché leurs albums parce qu'on disait que c'était trop satanique. Et on a commencé à dire qu'ils étaient associés à Charles Manson, ce qui n'était pas vrai du tout. T'sais. Et puis, c'est ça. Puis ça, c'était le magazine Esquire qui avait sorti cette fausse rumeur-là. Donc, tout ça pour dire qu'on est rendu dans les années 70.
Oui,
Kiss arrive.
Un petit peu, avant de parler de Kiss, on va faire une courte pause parce que j'ai l'impression que Kiss, il y a énormément de gens que ça va les intéresser. Puis on est un peu pressé dans le temps, donc je veux le faire super bien pour eux.
Parfait.
On est avec Eric Flynn, c'est notre musicologue, c'est un historien musical. C'est le gars de radionostalgie.ca, c'est le gars de radioquebec.biz. C'est là où vous pouvez voir tous ses œuvres. Donc, allez faire un tour après l'émission. Après l'émission, restez avec nous autres. On revient dans quelques secondes.
Marceau, le soir. Attention! Le complexe du Phoenix explose tous les jeudis. 4 choix de tartare à 5$ et 5 choix de martini à très petit prix. Tous les jeudis au complexe du Phoenix, rue du Parvis. phoenixduparvis.com. Soyez prêts pour l'hiver grâce à Sail. Profitez des soldes de nouvelle année et obtenez jusqu'à 50 % de rabais sur une vaste sélection de manteaux, bottes et équipements de sport d'hiver. Économisez sur des milliers d'articles. Sail, la plus grande destination plein air. Une entreprise 100 % québécoise. La Vapshop, pionnière dans le domaine du vapotage depuis 2012. Pour tous vos besoins en vapotage, visitez la Vapshop du 603 rue Saint-Jean, du 1485 chemin Sainte-Foy ou du 1800 industriel à Val-Bélair. Joignez-vous à notre équipe. Envoyez votre CV à carrière@commercial.com. lavapshop.ca. Joyeuse fête!
Mercado.fm. Découvrez, cliquez, profitez. Voulez-vous une bonne nouvelle?
Ah, toujours!
Ces temps-ci, il fait froid, il neige, il fait noir 20 heures sur 24.
OK. Et où la bonne nouvelle, là?
La bonne nouvelle, c'est qu'avec Mercado.fm, vous n'avez pas besoin de sortir de chez vous pour faire de grosses économies. Mercado.fm, c'est un nouveau marché local en ligne pour trouver des produits, services et activités à des prix souvent jusqu'à 50 % de rabais. Mercado.fm. Découvrez, cliquez, profitez.
En partenariat avec la CQ Québec et la Ville de Lévis, le Salon de l'habitation du 13 au 15 janvier au Centre de congrès de Lévis. Le premier salon de l'habitation de l'année pour découvrir en primeur toutes les nouveautés pour se loger, aménager et rénover. En compagnie de Stéphanie Lévesque, venez à la rencontre de différents spécialistes. Stationnement gratuit. Pour information, sh-ca.ca. Le Salon de l'habitation du 13 au 15 janvier au Centre de congrès de Lévis. Une collaboration de Loutec, l'expert en location et Boulevard 102.1.
De la neige neige puis du fret, on va en avoir cet hiver. Êtes-vous prêt à en profiter pour rester bien au chaud? Offrez-vous une paire de mitaines ou de bottes en loup marin de chez Raquette et Artisanat Gros Louis. Venez voir nos chapeaux de fourrure, manteaux, mocassins d'intérieur et bien sûr, nos raquettes. 30 Boulevard Bastien à Wendake.
Un environnement sans fumée, ça vous parle? Siscoff Quiron, les condos à louer, la Vigie version 2 à Sainte-Foy. Un immeuble neuf livré pour juillet 2023, près de tous les services. Pour plus d'informations, visitez immeubleroussin.com.
Cet hiver, je glisse à Tewksbury. Les glissades les plus hautes, les plus longues et accessibles à toute la famille. Les glissades Tewksbury.com. Pour quelques jours seulement, achetez en ligne et profitez d'un rabais. Les glissades Tewksbury.com. Pour toute la famille, les glissades Tewksbury.com.
La radio rock de la vieille capitale. Ça, c'est BLVD.
Boulevard 102.1.
Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir. Le soir.
Ce soir, on est avec Eric Flynn, le musicologue, l'historien musical. Et là, ben, il nous parle d'un groupe qui a été énormément apprécié des Québécois. En fait, un groupe qui a été énormément apprécié un peu partout où il est passé, là, mais au Québec particulièrement, peut-être en raison du fait qu'à Québec, on aime beaucoup le métal. Là. Ce groupe-là, tout le monde avait des gilets d'eux. Là.
Kiss!
Ah ouais.
Oui, Kiss qui a été très populaire. Puis là, ben, eux autres arrivent dans les années 70, et là, c'est le maquillage, tu sais. Donc, là, on commence à se poser des questions. Le gars qui a la langue qui sort, puis elle est longue, il crache du feu, il y a du sang qui sort de sa bouche. Imagine, là, les petites madames de religion, là, les petits messieurs de religion, là, tu sais, sont là, puis au point, même si à un moment donné, vous pouvez taper sur YouTube.
Ouais. J'ai dit groupe métal, mais c'est-tu un groupe hard rock plutôt?
Ils faisaient du métal dans les années 70.
Ouais.
Mais à un moment donné, parce que je donne un exemple, il y en a qui vont dire ben voyons donc, Kiss, c'est un gros pop. Parce qu'il y en a plusieurs que Kiss connaissent Kiss à cause de I Was Made for Loving You,
ouais.
Qui est une chanson disco rock. Mm-hmm. Donc on associe ça comme une chanson pop. Mais il y a la période aussi qu'ils ont fait avant, la période Detroit Rock City, God of Thunder, qui était un son qui était très lourd pour l'époque, bien sûr. Les années 80, c'était du hard rock. Les années 90, ils ont retombé un petit peu vers le métal. Ouais. Un son beaucoup plus lourd comme son métal. Mais c'est ça. T'sais. On rentre Kiss comme un groupe métal, mais quelqu'un qui va me dire que Kiss est un groupe pop rock, oui, je vais comprendre, parce que la personne, elle va se fier sur I Was Made for Loving You, qui est le gros.
Je pense que hard rock, c'est ouais. Pas mal ce qui décrit le band.
Oui, 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 juste au milieu, là, ouais. C'est ça, effectivement. Donc, Kiss arrive avec le maquillage et la grosse scène, le côté théâtral sur scène que le groupe présente, et puis là, ben. On commence à faire peur. Même dans les années 80, si vous tapez sur YouTube Kiss, groupe satanique, vous allez avoir un extrait de Bernard de Rome à Radio-Canada et qui va parler d'un concert de Kiss à Québec. Et c'est les pentecôtistes. Ça, c'est pour les gens. Ben, c'est directement ici où la station. C'est vrai, c'était Coin Pierre-Bertrand et Boulevard Le Bourgneuf. Il y avait l'église. Ça, c'était le carrefour chrétien de la capitale.
Ouais.
La bâtisse n'existe plus aujourd'hui, mais c'est juste ici à côté de la station, à une minute à pied. Donc, eux autres, de ce soir-là, ben, ils ont décidé de prier pour dire que, écoute, on va essayer de dire aux jeunes qui vont voir Kiss qui cessent d'être influencés, parce que juste en regardant les gars de Kiss, ben ils sont possédés par le diable, là, t'sais.
Hey, tu sais. Tu m'avais pas envoyé un reportage?
Oui.
Tu m'as envoyé un reportage là-dessus? Oui, oui, ça fait, oui, ça doit faire 5-6 ans que tu m'avais envoyé ça.
Oui. Et puis, c'est ça, tu sais. Puis là, ben on voit les gens, il y a des images, là. La caméra de Radio-Canada, elle est directement là, dans le carrefour chrétien de la capitale. Là. Et là, les gens font des prières, puis bon, contre Kiss, parce que c'est un groupe diabolique. Et là, c'est la guerre, le mal contre le bien. Et puis, il faut vraiment là, se manifester. Tu sais, c'était vraiment ça. Là, et la religion catholique en a fait beaucoup à Québec. Daniel Bouchard, à un moment donné, l'ancien gardien des Nordiques, avait mis une Bible en dessous de la scène d'un concert d'Ozzy Osbourne,
ouais.
Pour pas que Ozzy fasse de quoi de mal aux gens, tu sais. Ils disent, ben, en mettant une Bible là, ça va les protéger, tu sais. Mais tu sais, ils ont fait ça. Ils ont fait pareil aussi avec un concert de Judas Priest, ouais. Au Colisée. Donc, Daniel Bouchard. Puis il y en avait un autre, Lapointe. Je pense que c'est Ron Lapointe. dénommé Lapointe, là, qui jouait pour... Il a été coach à un moment donné aussi pour les Nordiques. Mais Rick Lapointe, c'est Rick Lapointe, un défenseur des Nordiques qui était très religieux lui aussi. Donc, eux, ben, c'est ça. T'sais, ils mettaient une petite Bible. Là. Et aussi, ils l'ont fait à Kiss. Et lorsque on a dit à Gene Simmons de Kiss, bon ben il y a un gardien de but de hockey qui a mis une Bible juste là parce que pour protéger. Nan, nan. Ah ouais. Il a pris la Bible, il a commencé à lire, puis il l'a gardé avec lui.
Tout simplement.
Ouais.
Puis, ce qui est surprenant, c'est que les deux principaux, là, c'est Gene Simmons puis
Paul Stanley.
Paul Stanley sont encore en vie, 70-71
ans. Ben oui. Paul, ça va de narrache, par exemple. T'sais, on doit dire que Paul devrait arrêter de chanter. Là. Mais Gene Simmons, il a encore sa voix, il la garde encore. Tout comme Alice Cooper, il est encore capable. Là, malgré leur âge, là. Mais les gars sont encore en tournée, puis ils continuent une tournée d'adieu qui date depuis 1998. Là.
Ouais.
Sont en tournée d'adieu depuis ce temps-là. Mais non, le groupe roule encore sa bosse, et puis on a associé énormément le diable autour de Kiss, même que on dit que K-I-S-S, Kiss, c'est les Knights in Service in Satan Service, là, les chevaliers au service de Satan. Ça voudrait dire ça, puis en réalité, ça n'a pas rapport. Là,
j'ai le reportage que je parlais.
Ah ouais, avec Bernard de Rome.
Ils se sont réunis pour prier Dieu.
Nous croyons que ce groupe est nettement sous l'influence de Satan dans sa musique, dans les paroles de sa musique, dans son maquillage, dans ses gestes, dans son nom et dans tout.
Oh, wow!
Ouais.
Constance qui n'était pas contente.
Non, elle n'était pas contente, là. Non, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Les jeunes, ah ouais, non, et Hun.
Attends un peu, j'en ai un autre, je pense que c'était un gars qui était sur place.
Ah, des fans.
Les gars qui viennent ici pour faire un show, pour se faire de l'argent, c'est pas pantoute. Des affaires de 7 ans, là, c'est pas vrai pantoute.
Ah ouais, c'est ça, c'est simple pour faire de la publicité au soleil.
Wow!
Donc, ben c'était comme ça, puis ça, c'était dans les années 80, là. T'sais, on parle des années 80, là, encore, là, tu sais. C'est quand même assez récent, là. Et puis, là-dessus, ben c'est ça, il y avait Kiss, il y avait Judas Priest à l'époque, Ozzy Osbourne, et même Iron Maiden. On disait que lorsqu'ils ont fait la pièce The Number of the Beast, il y a eu des feuilles qui ont tombé, il y a eu des apparitions assez bizarres là, pendant l'enregistrement de The Number of the Beast. Là,
mais as-tu l'impression que c'était plus pour promouvoir l'album?
Ouais, ben, ça faisait l'affaire aux gars. Ben oui, là, ça faisait l'affaire des gars quand on a sorti ces histoires-là. Parce que Bruce Dickinson, il a dit non, il dit quand on a fait cette chanson-là, c'est un verlan 666, c'est un verlan de Aleister Crowley, Mr. Crowley, qu'Ozzy chante. Là.
Ouais.
Bon, ben c'est ça, ça vient de lui. Là, mais ça venait pas du groupe, là, l'histoire des histoires paranoïaques pendant l'enregistrement de The Number of the Beast. Mm-hmm. Ça venait même pas, cette histoire-là venait même pas du groupe, mais sauf que le groupe, ça faisait leur affaire parce que ça faisait de la promo, ça faisait José en même temps.
Ben oui.
Donc, il y a eu de ces histoires-là. Slayer aussi, un petit peu plus tard, dans les années 80.
Mm-hmm.
Et eux autres, ben, il y avait Elise Potter, qui est une jeune fille de 15 ans. Ben, eux autres, ça a été plus grave. Par exemple, au début des années 90, il y a un groupe qui sont influencés par Slayer. Et eux, ben, ils entendent une chanson, puis ils disent « OK, il faut tuer une vierge, puis nanani, puis il faut la manger, puis nanana. »
Puis eux autres l'ont
fait. Ils ont décidé d'y aller. Ils ont pris ça au mot, eux autres, là, tu sais. Mais aussi des vagues de suicides, bon, qu'il y a eu dans les années 80. Ça, c'est complètement autre chose. Marilyn Manson, ben, on en a parlé tantôt. Ça en était un. Il y a le groupe Mayhem. Oh, Mayhem. Ça, c'est un groupe black metal de la Norvège.
Ouais. Ben, ça, autres, là. Ouais, tu m'en avais déjà parlé de ce band-là.
Ouais, eux autres, c'est assez weird, là, tu sais. Quand tu dis, justement, il y en a un qui se tire, le chanteur, il se tire une balle, puis bon, tu sais, il commet les réparables. Puis lui, il mettait son linge avant les concerts, il mettait son linge dans terre pour que ça sente la pourriture. Sur scène. Il se coupait les veines sur scène, là, puis il poussait le sang sur le monde. Mais ce groupe-là était un groupe satanique. La différence, c'est qu'eux autres, c'était vraiment des sataniques. Okay? Tandis qu'Ozzy, il va se servir de Satan, de l'image satanique pour se donner une image.
Pour se promouvoir, tandis que pour autres, c'est des ça. Autres.
Tandis qu'eux, c'était vraiment, là, c'était des vrais sataniques. Là, et eux, ils étaient vraiment anti-catholiques. Et c'est eux, quand on a des gens, je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà entendu parler, ceux qui ont brûlé des églises en Norvège, ben c'est eux, là, c'est ces groupes-là. Là, les groupes black metal norvégiens, ça, c'est les groupes de musique, les gosses peinture en blanc avec des marques noires. Là. Bon, ben c'est eux autres, là, tu sais. Donc, il y avait le groupe Mayhem qui avait, eux autres, leur chanteur qui s'est donné la vie en faisant... Il s'amusait, tout simplement.
Il s'est enlevé la vie.
Il s'est enlevé la vie par façon accidentelle. Et quand il a fait
mais
ça
il jouait
dans
à roulette russe?
Non. Ça, c'est un autre, ça, qui a joué à la roulette russe. Ça, c'est un des chanteurs de Chicago.
OK.
Hein, celui qui chante dans Columbia World de Chicago, lui, il jouait à la roulette russe.
Ouais.
Puis il s'est tué.
Puis le gars de Mayhem?
Mais le gars de Mayhem, non, il s'amusait tout simplement. Puis par accident, il s'est tiré dessus. Et puis ça, c'était au local. Il y avait un local un peu éloigné un petit peu dans le bois. Et quand il y a Euronymous, le leader du groupe, il s'en va au local quelques jours après. Il est là, puis il découvre le corps. Qu'est-ce qu'il fait? Toi, tu t'en vas quelque part, tu découvres un corps. Qu'est-ce que tu fais?
M'appelle la police.
Ouais, logiquement. Lui, il s'en va dans une pharmacie. Non, lui, il est allé dans une pharmacie acheter un petit Kodak.
Ouais.
Il le prend en photo. Ça a été la pochette du nouvel album du groupe. Tu sais, c'était capoté de même, là. Donc, ça prend un autre membre, Varg Vikernes, qui arrive. Et lui, ben, c'est lui qui va vraiment pousser pour brûler des églises. C'est un extrémiste. Et c'est lui qui va tuer Euronymous à coup de couteau. Un petit peu plus tard, il aura eu 25 ans de prison. Il va sortir de prison. Il est sorti de prison il n'y a pas longtemps. Et là, ben, il a rencontré une Française. Il a commencé à militer pour Marine Le Pen. Il a changé son nom. Il a changé de vie. Il s'appelle Louis Cachet. Maintenant, il demeure en France. Donc, ça, c'est un petit peu Mayhem, leur histoire. Ça, c'est assez weird comme groupe. Théâtre des vampires aussi fait partie un petit peu des groupes diaboliques qui, eux, c'est Satan.
Le Théâtre des vampires. Ça, c'est un groupe français, j'imagine?
Italien. C'est des Italiens.
Ah, ouais.
Ouais. C'est un groupe italien. Et puis... eux autres, c'est pareil, Théâtre des vampires, là, c'est vraiment là, oh toi, Satan le plus beau des anges, rejeté par le troupeau de Dieu. Puis eux autres chantent vraiment là-dessus, sont basés là-dessus. Là. Bien sûr, dans les années 2010, ben là, il y a l'arrivée des groupes comme Ghost, Dempf, Avatar. Ouais. Là, on arrive, puis là, Ghost, eux autres, ben, on le voit avec le look, un groupe très populaire à Québec. Tu sais, le chanteur arrive, il est habillé en cardinal Ouellet, là, ouais. En pape, là. Puis là, il arrive sur scène comme ça, puis là, ben, eux autres, au début, c'était anonyme. Les gars, ils étaient anonymes. Il y avait les ghouls, puis il y avait le chanteur Papa Emeritus. Puis eux autres, c'était complètement anonyme comme
ça. J'aurais aimé ça que ça reste de même. Ben, oui. Qui sont ces gars-là?
Ben, comme Kiss avait fait dans les années 70.
Exact.
Là, et c'est ça qui était le fun, parce qu'on savait pas du tout c'était qui ces membres-là. Il y avait des rumeurs, il y avait... on disait même que Shanae Salt, la bassiste de White Zombie, c'était elle qui était là. Puis on cherchait c'était qui, puis on trouvait pas c'était qui, puis c'était le fun, c'était cette intrigue-là. Parce qu'eux autres, ils disaient, il faut pas qu'on donne notre vraie identité, parce qu'il va y avoir l'Opus Dei qui va nous s'en prendre à nous autres. Le Vatican vont s'en prendre à nous, puis... On doit rester anonyme là, tu sais. Et jusqu'à une histoire de justice qu'il y a eu il y a quelques années et qu'on a été obligé de dévoiler le vrai nom du chanteur. Maintenant, ben, il joue un petit peu avec les deux. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a eu toutes sortes de choses qu'il y a eu dans le groupe. À un moment donné, qu'il y a eu une histoire de justice parce que là, tout le monde disait c'est à nous autres ce nom-là, t'as pas d'affaire à prendre ce nom-là. Et c'est la raison pour laquelle il a comme créé à un moment donné un cardinal. À cause de cette histoire de justice-là, qui est obligé de changer de nom pendant un certain temps. Puis après ça, il est revenu avec son nom. Mais des groupes comme Avatar, qui trippent sur le satanisme, Dempf, il y en a beaucoup. Là. Puis aujourd'hui, il y en a encore beaucoup des groupes qui adhèrent beaucoup là, le satanisme. Mais des groupes vraiment, des vrais sataniques, on peut dire, là, Théâtre des vampires, quelques groupes black metal, Mayhem et ainsi de suite... Lacrimosa, un groupe de la Suisse. Tu sais, c'est vraiment là, des groupes, là, vraiment des vrais groupes sataniques. Là.
Ouais. Mais les gens sont beaucoup dans les extrêmes. En musique, en fait, c'est soit que tu es très, très, très en amour ou soit que tu es grissement en peine d'amour. Ouais. Pour les bands, ben, c'est soit que tu es du côté des bons ou soit tu es du côté des méchants. Moi, j'aime beaucoup là, les histoires, les légendes d'un individu qui, à la croisée des chemins, aurait croisé le diable en lui demandant ben, « J'aimerais être le meilleur guitariste au monde. » Et le diable lui aurait dit ben, « Tu vas être le meilleur guitariste au monde. » Par contre, ça va me prendre ton âme. Et le gars, quelques années plus tard, suite au fait qu'il plaît à la femme d'un propriétaire de bar, ben, il se fait tuer à l'âge de 27 ans. Ouais. Je veux dire, pour l'histoire, c'est formidable. C'est plate pour lui, là.
Ouais,
mais pour l'histoire.
J'aurais pris autre chose, moi, par exemple. Là, au lieu d'être le meilleur guitariste au monde, pour moi, avoir toutes les femmes que je veux, tu sais.
Être Ron Jeremy.
Yes!
Mais tu serais mort à 27 ans.
Ouais, il y a ça, par exemple.
T'aurais pas pu en profiter autant que t'en profites aujourd'hui.
Non, non, j'aurais manqué ma victoire des Rangers contre les Canadiens ce soir.
Ah, jamais. Jamais, oh, ouais. jamais. Le Canadien qui est dû pour en gagner une ce soir. Ta prédiction, est-ce que le match va commencer dans quelques minutes, là?
Oui, les Rangers, bien sûr. 8-9-2. Pour les Rangers.
C'est fou, toi.
Ah ouais, mais écoute, là, les Canadiens sont à terre.
Les Canadiens gagnent à soir 4-2.
Ça dépend. C'est Alak qui goal.
4-2, Canadiens.
Alak peut sortir une bonne game.
Peux-tu croire qu'il goal encore dans la Ligue nationale?
Il n'arrache, il n'arrache. Parce que moi, je suis un fan des Rangers. Là, ouais. Je le vois. Là, puis... Malgré que depuis quelques temps, il a commencé à se replacer, mais il n'y en a plus de gardiens comme lui. Là. Des gardiens à bas de six pieds, il n'y en a plus. C'est le dernier.
C'est ça. Price ou Alak?
Hein, moi, je serais allé avec Price.
J'aurais peut-être gardé Alak en raison de sa longévité. Puis, anyway, Price nous a amené de nulle part avec le Canadien. Ouais. On n'a pas réussi à gagner de Coupe Stanley.
Ah, non.
Mais, regarde, c'est une question de goût. Ouais. Eric Flynn, t'es musicologue, t'es historien musical. On peut entendre tes œuvres à quel endroit? Parce que là, t'es propriétaire de deux stations de radio Internet.
Yes, yes. Radionostalgie.ca. Ça, c'est de la vieille musique qu'on met. C'est un... Puis même que le dimanche, je mets les meilleurs succès de 1900 à 1960.
Wow.
Toute la vieille musique des années 20, des années 30. Là, t'sais, la musique qu'on voit dans les vieux films des fois, là, ben, c'est ça qu'on retrouve là-dessus. Puis bien sûr, le rock'n'roll des années 50 qui est à l'honneur.
Mm-hmm.
Mais à part de ça, t'sais, c'est du pop, rock, disco. Il n'y a rien de lourd. Tandis que Radio-Québec.biz, c'est du son beaucoup plus actuel, mais... hard rock et metal. Là,
avec des animateurs très connus.
Oui, bien sûr.
Alice Cooper.
Oui, Alice Cooper. On a Ron Keel qui est là aussi, qui a vendu des millions d'albums dans les années 80. Ouais.